parce qu'on est tous différents de la même façon. Madame, avions are my favorite kinds of cars.
Bonjour et bienvenue au balado Franco Loops, présenté par Infonews.ca. Je suis Jamie Shinkowski et je vise à apprendre pourquoi dans notre ville anglophone à Kamloops, est-ce que la francophonie est toujours importante? Mon invitée pour cet épisode est une éducatrice à petite enfance très passionnée à transmettre la langue française aux tout petits. Montréalaise d'origine, sa vie à Kamloops l'a transformée en fée marraine et maîtresse de donjon. Bienvenue au balado Franco Loops, Anne-Marie Bouchard, comment vas-tu?
Wouhou! Ça va bien, ça va bien!
Alors, ben, je voulais commencer parce que tu travailles à temps plein à l'Association francophone de Kamloops dans la garderie chez Tintin et Milou. Alors, tu passes ton temps à apprendre la langue aux tout jeunes des zéros. Pourquoi voulais-tu te lancer dans une carrière d'éducation à petite enfance?
Honnêtement, depuis que je suis moi-même enfant, j'ai toujours voulu être professeure, éducatrice. Ça a commencé, j'étais très jeune. Quand j'avais 4 ans et que je prenais des cours de natation, je disais que je voulais devenir professeure de natation quand je vais être plus vieille. J'ai commencé la maternelle, là, je voulais devenir professeure de maternelle. Première année, professeure de première année. Ça m'a suivi toute ma vie. Quand j'étais rendue en 6e année, ce que j'aimais faire quand j'allais au service de garde après l'école, c'était d'aller dans le groupe des maternelles puis d'aller gérer les maternelles. Alors, même depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé gérer les enfants. Alors, c'était tout naturel pour moi d'aller faire mes études en éducation à l'enfance au Québec, tout fraîchement sorti du secondaire. Franchement, toutes mes expériences de travail dans la vie, à l'exception de deux, ont toujours eu lien avec les enfants. J'ai fait du tutorat, j'ai fait du bénévolat avec les enfants, j'ai travaillé dans des camps de jour. Moi, je trouve que c'est une vocation comme travail. Le travail avec les enfants, il faut que tu sois passionné, il faut que ce soit ta vocation. Et pour moi, c'est ça. C'est le travail qui m'a choisi plus que moi qui a choisi ce travail-là.
Puis ça t'aide à rester jeune au cœur aussi, d'être avec les tout jeunes tous les jours. Chanter les chansons, faire les bricolages, créer des projets avec eux autres.
Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça fantastique. Je les trouve tellement drôles. J'aime ça noter des petites phrases, des petites choses qu'on me dit souvent parce qu'ils ont tellement une façon impressionnante, mais amusante de voir la vie. Une de mes citations préférées, qui est d'ailleurs bilingue, vient d'un enfant de la garderie qui m'a dit à un moment donné, qui m'a dit « Madame, avions are my favorite kinds of cars.
» Mais ça, c'est l'autre aspect. À Kamloops, tu travailles dans un milieu bilingue. Surtout en bas, c'est pour certains enfants, le premier contact avec le français. Alors, comme pour toi, pour transmettre un peu ta langue maternelle, ça doit aider avec ta passion de venir travailler avec eux autres à tous les jours?
Oui, bien moi, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en venant à Kamloops. Parce que moi, venant de Montréal, femme blanche, francophone à Montréal, je ne suis pas du tout en milieu de minorité. Je fais partie de la très grande majorité. Là-bas, les Bouchard, c'est le deux ou troisième nom de famille le plus commun au Québec. Tu peux pas avoir plus, à part d'être un Tremblé, tu peux pas être plus québécois que ça. Alors, quand je suis venue, moi, je suis venue à Kamloops au départ pour un travail d'été, une année, à l'association pour faire le camp d'été. Moi, c'est ça qui est venu me chercher dans la communauté de Kamloops. C'est ça, c'est d'être une petite communauté en minorité, c'est tellement différent. Et quand je suis revenue pour m'installer ici, j'ai plein de gens autour de moi qui me disaient « Oh, t'es vraiment courageuse, j'aurais peur, moi, de faire ça, de partir à l'autre côté du pays. » Alors que moi, en sachant qu'il y a toute cette petite communauté-là de gens autour qui sont là pour m'aider, j'avais pas peur du tout. Et c'est là aussi que j'ai découvert comme on parle de minorité, minorité langagière. Pour moi, le Québec, venant du Québec, le français, c'est, je le prends un peu pour acquis. C'est, j'ai grandi francophone, tout le monde parle français autour de moi. Alors, d'arriver en minorité langagière, de voir comment les gens, les choses autour perçoivent le français, comment c'est facile ou difficile de parler en français, ça a été pas un choc, mais ça a été très surprenant. Et oui, je trouve ça important maintenant, encore plus que je le pensais avant, de pouvoir aider les gens à garder leur français ou à apprendre le français. C'est une réalité toute différente que j'ai découverte en arrivant ici.
Mais ça, c'est un thème qui commence à revenir maintenant qu'on passe à plusieurs épisodes du balado, que surtout pour les personnes qui ont grandi dans un milieu francophone où c'est la langue principale, là, on vient à Kamloops, puis ça devient un effort conscient que, OK, moi, il faut que je ne perde pas ma langue. Puis toi, tu as l'occasion de travailler au quotidien en français, mais quand même, ça doit être un ouvrage puis un défi personnel pour ne pas perdre le français ici.
Oui, et même maintenant, ça m'arrive des fois, je suis encore coincée un peu entre les deux, ou des fois, j'oublie mon mot en anglais, j'ai juste le mot en français que je veux dire dans la tête, et vice-versa, des fois, je veux dire quelque chose en français et j'ai que le mot en anglais coincé dans la tête. Parce que moi, ici, comment je travaille, comme je travaille avec les petits de la garderie pour la grande majorité de la journée jusqu'en après-midi, et en après-midi, je vais avec les plus vieux, où là, ça se passe complètement en français, alors qu'avec les plus petits, avec mes collègues et avec les autres, je parle aussi beaucoup en anglais. Je passe de un à l'autre extrêmement souvent dans ma journée. Alors, des fois, c'est difficile, des fois, mon cerveau se met d'une seule langue. Et là, par exemple, si je suis avec les grands et je parle juste en anglais, je parle juste en français avec les grands. Si je suis avec les grands et que je leur parle juste en français et que ma collègue vient me parler et qu'elle me parle en anglais, là, il faut que je reflippe mon cerveau. Des fois, c'est fatigant. Je commence à m'habituer, mais au début aussi, quand je suis arrivée au début, c'était encore plus difficile.
Mais à ce point-là, tu es parfaitement bilingue. Étais-tu quand tu es venu pour ta première fois ou avais-tu besoin de t'ajuster un peu au niveau, même juste aller à l'épicerie, au restaurant, quoi que ce soit, circuler dans la ville ici, ça se fait en anglais. Avais-tu besoin de t'adapter?
Non, j'ai très longtemps été bilingue. J'ai pas grandi bilingue. J'ai grandi francophone. Chez moi, ma famille, mes parents, mes amis, c'est juste en français. Mon père est traducteur, donc mon père a quand même une facilité avec les langues, et moi aussi. Et ce qui a aidé aussi beaucoup, c'est que moi, à l'école, au primaire, j'étais au programme du baccalauréat international. Et donc, le programme international faisait que on commençait dès la première année à avoir des cours d'anglais. Donc, moi, j'ai commencé mes cours d'anglais en première année à coup de 2 heures par semaine. Et rendu en troisième année, ça a sauté à 3 heures par semaine de cours d'anglais. Je sais que les programmes maintenant ont changé, mais à l'époque, début des années 2000, les cours d'anglais au primaire au Québec, il n'y en avait pas beaucoup. Ça commençait plus pour les programmes réguliers autour de troisième année, puis c'était peut-être des fois 2 heures par semaine. Donc, moi, mon programme, j'en ai eu beaucoup plus et j'ai commencé beaucoup plus jeune. J'ai beaucoup, beaucoup lu des livres en anglais. Je donne beaucoup du crédit à une série de livres en particulier qui était la série des Orphelins Baudelaire, The Series of Unfortunate Events, parce que j'étais en 4e, 5e année quand j'ai rattrapé toutes les traductions en français et il était rendu à peu près 3 livres plus loin en anglais. Alors, je me suis dit, pourquoi m'arrêter là? Je vais aller les lire en anglais. Alors, j'ai beaucoup pratiqué et appris beaucoup de mon anglais en faisant ça, en écoutant des séries télévisées. Je suis excellente pour aller à l'hôpital et parler en anglais. J'ai écouté tellement de Grey's Anatomy que... C'est que je suis bilingue depuis très longtemps, mais j'ai pas grandi bilingue.
Franco Loop est présenté par infonews.ca.
Franco Loops is presented by Infonews.ca, the Thompson Okanagan's number one online news source. Your best local investigative articles. Sign up today for their newsletter and receive the top trending stories directly to your inbox. For more information or to read today's top stories, visit Infonews.ca.
Vous voulez entendre plus de contenu franco-colombien comme Franco Loops? Le balado Franc Ouest a déjà 19 épisodes de sa première saison, Francophonie sauvage, qui sont maintenant disponibles en intégralité sur webouest.ca. Je m'appelle Patrick Lac et depuis 2 ans, je vais à la rencontre des francophones fascinants de l'Ouest. Voici un extrait de l'épisode « Marionnette géante, ville fantôme et père biologique » selon Rose Blanche Hudon.
Finalement, après toute cette histoire-là, que mon frère a rencontré son père, puis ça ressemble vraiment, tu sais, puis il habite à Hearst, moi, ça m'a vraiment comme tourné à l'envers parce que moi, qui est plus jeune que ce gars-là, mon demi-frère, finalement, pourquoi que j'aurais le Jean, le gars avec qui t'es marié, comme père, parce que ça fait pas de sens. Pour moi, j'ai un autre père que le gars que ma mère m'a toujours dit que c'était mon père.
Saviez-vous que?
Saviez-vous?
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 Saviez-vous que?
L'Association francophone de Kamloops célébra sa 45e anniversaire en février 2024. Fondée en 1979, elle est composée de membres venant des communautés de la région de Kamloops et ses alentours. Le premier président de l'association, M. Gérard Vézina, aime parler de cette histoire. Dans les débuts, nous étions 4 francophones, il a dit. Des représentants de Radio-Canada étaient venus nous rencontrer parce qu'ils voulaient mettre dans la région de Kamloops une ligne de transmission de la chaîne française de la TV d'État. Mais Radio-Canada a dit, vous n'avez même pas d'association. Oui, on en a une. Leur bluff les a poussés pour en fonder en 1979. 4 ans plus tard, ils deviennent l'Association francophone de Kamloops. En 1991, l'Association francophone a acheté une maison qui se situe à 348 Fortune Drive à Kamloops. Des travaux et des rénovations avaient besoin d'être faits. Tout le sous-sol avait besoin d'être refait pour mettre une garderie. Une partie du premier étage avait aussi besoin d'être transformée pour construire un bureau pour l'association et une salle de réunion. De la mi-septembre à mi-décembre, 29 bénévoles ont donné plus de 1200 heures pour faire ces divers travaux et la garderie est enfin ouverte en janvier 1992. Et la garderie chez Tintin et Milo est encore là aujourd'hui.
Le segment « Saviez-vous que? » a été écrit et enregistré par les jeunes francophones de Kamloops et sa région. Merci à Malin Stafford de nous avoir parlé de la création de l'Association francophone de Kamloops. Je voulais aussi te demander, parce que l'apprentissage du français, c'est tellement personnel, puis t'es ici depuis assez long que t'as vraiment vu les enfants passer à travers tout le programme, puis avec les deux, la garderie et après-école qu'on a ici, on a les enfants de 2 ans et demi jusqu'à 12 ans. C'est une énorme amélioration de langue. Peu importe ta langue maternelle, t'as un tout petit vocabulaire à 2 ans et demi, puis là, rendu à 12 ans, c'est quoi, 5e, 6e année à l'école. Alors,
C'est sûr, tu dois avoir des belles histoires des enfants qui ont passé par ici, puis leur amélioration en tant que français parlé.
Oui, il y en a beaucoup et c'est pas toujours facile. Des fois, il y en a que ça va leur prendre plus de temps. Alors, on en a, je pense à plusieurs enfants qui, surtout une fois rendus à l'école, je dirais que des fois, jusqu'à la première, deuxième année, ça peut prendre du temps. Je pense à plusieurs exemples de plusieurs enfants que, même en première, deuxième année, nous, ici, au programme après l'école, on leur parle uniquement en français et on s'attend à ce qu'ils fassent des efforts qu'ils parlent en français, mais on en avait beaucoup que ça a pris plus de temps, qu'ils répondaient tout le temps en anglais, que des fois, ils ne comprenaient pas trop le français. Et souvent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a aidé, mais à un moment donné, ça débloque. Et là, soudainement, il n'y a plus de problème. J'ai un enfant en particulier qu'on a présentement ici que pendant, c'est ça, maternelle première année, c'était assez difficile où on se demandait même s'il pouvait bien participer dans le groupe tout en français. Mais c'est que c'est un enfant qui a tellement de choses à dire, tellement d'idées, tellement de pensées, tout sort vraiment très vite dans sa bouche. Il y a plein de choses, plein d'idées. Je trouve ça, moi j'adore ça, parler avec cet enfant-là qui a tellement d'imagination, mais... Donc, après ça, leur demander de traduire automatiquement dans leur tête ce qu'ils veulent dire, même des fois de leur dire juste « Ah, oh, donne-moi juste un mot », ça va tellement vite dans leur tête que ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, ça a été long, mais il y a quelque chose, je ne sais pas exactement quoi, je ne sais pas, à l'école ou dans la pratique, qui a débloqué, je dirais quelque part l'année passée, et ça va tellement, tellement bien avec cet enfant-là. Je suis même pas sûre que j'aurais pu deviner qu'en si peu de temps, il aurait fait tellement un gros changement. C'est ça, le avant et le après. C'est très impressionnant.
C'est vraiment ouais. Ça que j'ai remarqué. Pour tout le monde, c'est à un point un peu différent, mais souvent, c'est en première, deuxième année, puis il y a juste quelque chose qui clique. Ça aide aussi après COVID que c'est pas juste quelque chose forcé en classe. On peut avoir les opportunités spéciales de jouer un rôle dans la pièce de théâtre Cendrillon en anglais, malgré c'était en anglais, mais ta maman est venue, puis les enfants que tu connaissais à travers ton travail à la garderie puis après école sont venus assister au spectacle. Puis quand ils ont rencontré ta maman, ben raconte-nous l'histoire parce que j'ai tellement apprécié ça.
Mais j'aime beaucoup faire du théâtre musical. Alors, je me suis embarquée dans ce projet-là et je l'ai lancé un peu à plusieurs personnes de venir nous voir. Au total, j'ai 15 enfants avec qui je travaille, autant les plus jeunes que les plus vieux qui sont venus, avec leurs parents. J'ai d'autres personnes autour de moi qui sont venues. Moi, ça, c'est venu me chercher, ça m'a fait chaud au cœur parce que moi, quand je suis arrivée à Kamloops, c'était vraiment juste avant COVID. Alors, de me faire des amis, d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui m'apprécient, ça a pris un peu plus de temps. C'est que de voir ça, ça m'a fait chaud au cœur. Et oui, en effet, c'est ça, ils sont venus, ils ont rencontré. En fait, c'était surtout les gens qui étaient dans le spectacle avec moi. On avait beaucoup de jeunes, d'adolescents qui faisaient le spectacle aussi, que moi, tout le long qu'on a pratiqué et tout, je leur parlais en anglais. Et avec ma maman qui est venue du Québec, qui a fait le voyage au complet juste pour venir me voir, en nous entendant parler français, tous les ados, les jeunes enfants qui étaient là se sont mis eux aussi à parler français parce qu'une grande majorité, je savais même pas, allait à l'école en immersion en français. Et là, soudainement, il y avait une opportunité de pratiquer leur français, autant pour juste parler avec ma mère, avec moi, mais ils sont mis à même parler en français entre eux sans raison réelle. Ils auraient pu le faire depuis le début, mais juste d'avoir une présence francophone autour d'eux, ça les a comme réveillés. Moi, j'ai trouvé ça super. Dans l'introduction, t'as mentionné que je suis maîtresse de donjon. Alors, ça, c'est un projet que j'ai parti l'année passée où j'ai décidé d'offrir de faire du jeu de Donjons et Dragons avec des jeunes qui sont francophones en immersion à l'école française ou pas, pour juste venir trouver une façon encore plus amusante de pratiquer le français plus que juste être assis sur les bancs de l'école. C'est le Donjons et Dragons, c'est un jeu collectif où on construit des histoires, tout le monde ensemble. Il y a le maître du jeu, donc moi, qui a une histoire en tête, qui décrit les lieux, les choses, mais tous les enfants avec qui je joue ont leur propre personnage. C'est eux qui décident et qui expliquent et qui décrivent ce que leurs personnages vont faire, vont dire. Alors, de faire un jeu comme ça, collectif, tout le monde, où on raconte des histoires, mais en français, moi, je trouve que c'est vraiment super, c'est amusant, c'est intéressant. Puis, j'ai pas besoin de faire la police tout le temps, de répéter « parle en français », parce qu'ils sont immergés dans ce jeu-là, dans cette activité-là.
En général, je sais que tu es super passionné des arts de la scène, parce que non seulement on parle de Cendrillon, on parle Donjons et Dragons, ben, c'est un peu comme l'impro. Tu as embarqué dans les sessions d'improvisation théâtrale qu'on avait fait avec Magali.
Wouhou! Shout out to Magali!
Puis aussi, tu fais partie de la chorale avec Kamloops Pride. Alors, c'est un peu partout dans ta vie, les arts, la musique. Même au quotidien, tu as toutes sortes de petites chansons que tu peux sortir de ta poche au besoin avec les enfants. Alors, d'où vient cette passion pour les arts pour toi?
Ça a juste vraiment toujours été autour de moi. Ma mère en particulier aime beaucoup, beaucoup chanter. Et quand on était petite avec moi et ma petite sœur, toute dans la vie, elle faisait juste inventer des chansons sur les choses les plus mondaines. On fait un sandwich, on invente une chanson sur on fait un sandwich. On est en voiture et on passe sur les dos d'âne dans les ruelles. On invente une chanson à propos de passer sur les dos d'âne dans les ruelles. C'est juste... Ça a toujours été autour de moi. J'ai toujours adoré la musique, chanter en particulier. Mais pour les langues aussi, c'est vraiment excellent. C'est une des meilleures façons pour l'acquisition du langage pour les enfants, que ce soit dans leur langue première ou dans une langue seconde, d'apprendre des chansons. C'est plus facile de les retenir dans notre tête quand il y a une mélodie, quand il y a des choses. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est vraiment juste, ça a toujours été autour de moi. C'est utile dans ma vie. Ça me fait du bien dans mon petit cœur de chanter, d'avoir de la musique, de partager ça avec les enfants. Il y a quelque chose de vraiment qui vient toucher l'âme humaine quand on chante. Il y a une raison pourquoi un enfant qui pleure, peu importe son âge, un des premiers réflexes qu'on a, c'est de chanter des chansons, de chanter des berceuses. C'est juste vraiment quelque chose qui a toujours été dans ma vie.
Ton parcours de venir en Colombie-Britannique, ça n'a pas été tout à fait facile de transmettre ta certification dans cette belle province qu'on vit maintenant. Ça a été un énorme défi à surmonter pour toi.
Oui, ça a été plusieurs mois et plusieurs milliers de dollars même, je dirais. En fait, donc au Québec, pour être certifiée éducatrice à l'enfance, c'est un programme du cégep. C'est un programme technique qui dure 3 ans et je l'ai fait. Et une fois que tu as ton certificat, c'est bon pour le reste de ta vie. Je sais qu'ici, en Colombie-Britannique et probablement ailleurs aussi au Canada, c'est un peu différent. Ici, en Colombie-Britannique, quand tu as ton certificat d'éducation à l'enfance, à chaque 5 ans, il faut que tu le fasses renouveler. Il faut que tu fasses du développement professionnel pour pouvoir le faire renouveler, etc. Donc, les normes ne sont pas pareilles. Ce qui n'est pas pareil non plus, c'est que la Colombie-Britannique et la majorité des autres provinces au Canada ont tous signé un document comme quoi leurs programmes en éducation à l'enfance étaient tous semblables et similaires. Donc, si tu as un diplôme de la Saskatchewan qui te permet de travailler en tant qu'éducatrice à l'enfance, tu peux simplement envoyer ton diplôme pour le système en Colombie-Britannique et ils vont le reconnaître au même niveau, aux mêmes équivalences. Les deux seules provinces qui n'ont pas signé cette entente, c'est le Nouveau-Brunswick et le Québec. Donc, mon diplôme du Québec, je ne pouvais pas seulement l'envoyer en Colombie-Britannique et être reconnu. Il a fallu que j'envoie tous les plans de cours, de tous les cours que j'ai faits sur 3 ans. Donc, c'était plus qu'une vingtaine de plans de cours qu'il a fallu que je leur envoie pour qu'ils puissent regarder c'est quoi le contenu, pour être sûr que ce soit équivalent, que ce soit les bonnes choses. Mais non seulement ça, il fallait que ce soit tout traduit par un traducteur agréé parce que tous mes documents étaient en français venant du Québec. Donc, c'est une des parties qui a pris énormément de temps aussi. Et c'est très frustrant parce que je comprends qu'au niveau provincial, la Colombie-Britannique n'a pas le français comme langue officielle. C'est seulement l'anglais. Je comprends ça. Mais sachant que le pays, au fédéral, le pays au complet, a deux langues officielles, il n'y aurait pas moyen d'avoir un deal avec des entreprises de traduction qui peuvent le faire à un prix moins fort ou quelque chose comme ça. Apparemment, dans la dernière année, ils ont commencé à penser à un programme un peu comme ça pour pouvoir faire reconnaître plus facilement les certifications comme ça parce qu'il manque énormément d'éducatrices.
C'est un processus qui doit les empêcher à sortir du Québec aussi.
C'est un problème à la grandeur du Canada au complet en éducation. Mais donc ici, je sais que ils ont commencé à voir un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, mais c'est un processus extrêmement frustrant qui a pris des mois. Entre le moment où j'ai pris la décision de revenir et de venir m'installer à Kamloops pour ça et que j'ai enclenché les démarches pour faire reconnaître mon diplôme et le moment où j'ai reçu mon diplôme, j'ai commencé au mois de juillet et ça a pris jusqu'au mois de février l'autre côté pour finalement arriver à bout de tout ça.
Mais je veux te poser la question que je pose à tout le monde. Je pense que tu as déjà mentionné plusieurs raisons pour toi, mais on vit dans un milieu principalement anglophone. Alors, pour toi, pourquoi est-ce que la francophonie est importante?
Pour moi, d'un côté personnel, c'est juste, ça fait partie de mon identité. Et c'est devenu important, comme j'ai dit, encore plus important depuis que je suis ici parce que quand tu es tellement entouré de tout ça, tout le monde autour de toi parle en français, tu as passé toute ta vie en français, tu remarques pas nécessairement à quel point c'est intéressant, à quel point c'est beau, à quel point c'est important pour toi. Puis une fois que tu sors un peu et que tu te décentralises de tout ça, c'est là que tu remarques, c'est là que des fois, j'ai entendu des gens, des anglophones qui font des petites blagues, des petits commentaires sur « Oh oui, on sait bien, vous les francophones, vous les Québécois », puis d'être maintenant dans une autre situation où je suis en minorité, ça vient plus me chercher, puis de me dire « Mais oui, on est différent, on est francophone, on fait des choses différemment, notre culture est différente ». Puis c'est pas une mauvaise chose du tout, c'est j'aime ça moi, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que je suis, c'est ça qui est important pour moi. Même si on est dans le même pays, notre culture est différente. Puis c'est important de le remarquer et de pas l'oublier.
Puis ça fait des années que tu es bien installé à Kamloops, alors quel est ton aspect préféré de vivre ici?
Je dirais encore que moi, ça reste encore la communauté, de faire partie d'une plus petite communauté comme ça, où tu connais plusieurs personnes, où tu fais des liens avec plusieurs personnes et que tu es juste automatiquement presque lié avec ces gens-là parce qu'on est tous différents de la même façon.
Puis c'est la première fois que j'ai une réponse qui n'est pas quelque chose de vivre à l'extérieur, faire les activités plein air, etc., mais as-tu un endroit préféré quand tu n'es pas au travail que « Ah, moi, j'adore aller visiter telle place? »
Honnêtement, moi, je suis une fille de grande ville. J'ai vécu toute ma vie à Montréal. C'est que c'est pas ma priorité numéro un. Ce qui est un peu dommage parce que c'est une des meilleures choses que la ville a à offrir. Mais moi, j'ai pas grandi étant quelqu'un de nature. Je conduis pas, c'est que je peux pas vraiment me pousser à aller très loin. C'est que pas vraiment. J'aime beaucoup marcher. Des fois, je vais juste me promener me promener au centre-ville juste pour déambuler et prendre de l'air. Le parc, j'aime bien Riverside Park, c'est très joli, se promener sur le bord de l'eau. En été, quand je finis assez tôt, qu'il fait beau soleil, je marche du travail jusqu'à chez moi parce qu'il fait beau et chaud.
Sans dévoiler à tout le monde où exactement tu vis dans un voisinage où c'est très joli d'aller prendre des marches.
Oui, il y a un très beau point de vue et il y a comme un espèce de petit chemin qui, sur une carte, ça dit que c'est un parc. C'est pas vraiment un parc, c'est juste un chemin qui coupe à travers un flanc de montagne pour me rendre au centre-ville. Mais moi, j'aime ça juste marcher, prendre ce petit chemin-là parce qu'il y a un point de vue, il y a même un bout, il y a juste un banc devant le point de vue qui donne la vue sur la rivière, sur le pont, sur le North Shore. C'est que moi, j'aime ça juste pour me rendre au centre-ville. Je fais juste marcher à travers ça. Des fois, je m'arrête, je prends des petites photos.
Puis aussi, tu as une perspective un peu unique que tu fais découvrir la ville quasiment à travers les yeux des enfants.
Je connais les places à aller. Et comme je dis, je conduis pas. Et moi, ça, c'est la partie que je trouve drôle. Autant avec les tout-petits que les plus vieux, la majorité, ils sont habitués d'aller partout en voiture avec leurs parents. Moi, je conduis pas et même si je pouvais conduire, quand j'ai un groupe de 10 enfants, j'ai pas de mini-autobus, donc on se déplace et si on va à des endroits, il faut prendre l'autobus de la ville. Et pour certains, des fois, il y en a, on prend l'autobus, c'est la toute première fois de leur vie qu'ils sont embarqués sur un autobus de la ville. Et ils trouvent ça toujours très drôle, très amusant. Moi, je dis que les petits à la garderie en bas, on pourrait les apporter à Disneyland en autobus de la ville et leur demander c'est quoi leur partie préférée de la journée, ils vont répondre que c'était l'autobus.
Que penses-tu est la place la plus demandée des enfants à visiter?
Ça dépend. La place la plus demandée où on peut aller réalistement ou la place où, dans leur rêve, ils aimeraient ça aller? Parce que si c'est dans leur rêve, à chaque fois, ils veulent qu'on aille dans les arcades et tous les trucs de jeu comme ça, où ils veulent qu'on aille se pousser loin, loin, loin au Wildlife Park. Ça leur coûte à peu près 15 $ par enfant pour aller se promener. C'est que ça, c'est dans leur rêve. Je dirais qu'en général, les endroits où on va, qu'ils aiment beaucoup, un de leurs préférés, c'est d'aller au Westside Centennial Park, le parc
en
haut de Westside, où il y a les chèvres et les animaux qu'on peut nourrir. Et en été, quand il fait chaud, il y a un parc d'eau. Il y a le parc normal et on peut aller se promener sur le bord de la rivière aussi. Cet été, il y a une journée où on est allé et après le lunch, je me suis dit, on va aller marcher juste un petit peu au bord de la rivière pour digérer. Finalement, ils ont fini par rester 1h30 à jouer, à ramasser des morceaux de bois, à construire des tentes et des structures avec leurs morceaux de bois sur le bord de la rivière. Moi, je trouve que ça, c'est un très, très beau parc qui offre vraiment... vraiment beaucoup de choses et d'expériences différentes dans un seul endroit. C'est que j'aime beaucoup y aller à celui-là avec eux. Et eux, ils aiment ça y aller aussi.
Ben Anne-Marie, je dois te remercier énormément de prendre un peu de temps dans ta journée et faire partie du projet. Je l'apprécie beaucoup.
Ben ça fait plaisir. À la prochaine.
FrancoLoops, présenté par Infonews.ca, est une production originale de l'Association francophone de Kamloops, diffusée en collaboration avec WebWest. Il faut remercier nos bailleurs de fonds Patrimoine canadien et ABC Gaming, Erika Tavernari pour la création du logo, Cutting Station Studios pour le thème musical, Jackie Shinkowski pour la photo de couverture, et un énorme merci encore une fois à mon invité pour cet épisode, Anne-Marie Bouchard. Finalement, merci à vous d'être à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez de le partager avec un ami, à vous abonner et à nous laisser un commentaire 5 étoiles. Merci et à la prochaine!
À la prochaine!